Alors, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, voilà un après-midi un peu chaud d'été. Et pour parler de l'économie, j'espère donc que la chaleur et l'économie ne vont pas trop vous endormir. Donc vous vous souvenez, et ça s'inscrit la séance d'aujourd'hui toujours à la suite de la première séance où on avait vu, vous vous souvenez, introduction à la doctrine sociale de l'Église, Laudato si comme une encyclique qui apporte des nouveautés, les trois grands principes de Laudato si, vous vous souvenez? Alors, tout est lié, tout est donné, tout est fâché. Ah, mais vous êtes excellent, 20 sur 20. Donc, tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Et donc, la dernière fois, on avait dit, on prend surtout tout est lié. Et donc, pour voir justement cette notion d'écologie intégrale et le lien entre la nature et la pauvreté humaine. Et on avait fait le lien avec une grande question de société qui est la migration. Donc vous vous souvenez qu'on avait vu les deux messages derniers du pape pour la journée mondiale des réfugiés et des migrants. Donc aujourd'hui, on prend une autre grande question de société, que c'est l'économie. Et en fait, on va prendre... Alors, je vais commencer par faire autour de l'économie le lien avec le principe de tout est lié pour montrer justement que le tout est lié donne une représentation de l'économie assez particulière. Et puis je vais surtout aborder le deuxième principe, le tout est donné, ce qui peut sembler aussi assez paradoxal que justement l'économie je la mette en lien avec ce principe qui parle du don et de la gratuité. Parce qu'en général, l'économie, vous savez, c'est plutôt ce qu'on paye, pas ce qui est gratuit. Eh bien, voilà, l'idée, c'est de voir que le tout est donné aussi peut prendre forme et donc, à l'intérieur même de l'économie. Donc, vous avez donc le programme. Donc, il y a trois. Je vais commencer par dire un petit peu comment la doctrine sociale de l'Église a abordé la question de l'économie, parce que c'est pas seulement le texte que je vous ai proposé de lire. Est-ce que vous avez pu le lire ou vous êtes arrêté en milieu? Parce qu'il est un peu hard, surtout quand il commence à parler des questions financières. Est-ce que quelqu'un l'a lu jusqu'à la fin? Non. Le début surtout? Pas du tout, non plus. Un peu le début.
C'est une bonne partie, mais je n'ai pas réussi à finir, parce que j'ai pas eu le temps.
Ah d'accord, assez. Ok, en tout cas, vous l'avez reçu par internet. Je vous avais dit que cette version du texte qui a été fait, les commencé, il a été fait par le CERA, c'est le Service National Famille et Société de la Conférence des Évêques et la Commission Justice et Paix. Je trouve qu'elle est intéressante parce que vous voyez le texte n'est pas très long, mais vous voyez tout le texte, il y a à chaque fois des petits encadrés, qu'à chaque fois qu'il y a un mot qui est très financier ou très économique, il vous donne la définition. Donc du coup, vous pouvez lire et tout de suite, les noms, les mots les plus techniques sont définis. Donc c'est une manière de ne pas bloquer quand vous trouvez des choses économiques. Et puis surtout, ce que je trouve très bien, c'est que vous voyez presque la moitié du bouquin, c'est des fiches sur techniques qui vont vous expliquer différentes choses, comment fonctionne, qu'est-ce que c'est la dette publique, qu'est-ce que c'est le marché offshore, enfin des questions qui vont l'actualiser, dire pourquoi, et mieux approfondir, expliciter des questions qui sont un petit peu survolées dans le texte. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut avoir envie de s'investir un petit peu dans la question économique, mais j'espère qu'après la session d'aujourd'hui, vous allez tous vous inscrire dans des cours d'économie parce que ça va vous donner tellement envie de faire de l'économie. Mais en tout cas, voilà, là je pense que ce texte pour ce thème dont on va parler aujourd'hui peut être une aide intéressante.
Excusez-moi, c'est quoi ce livre ?
Alors, le livre, c'est le texte, c'est celui que vous avez reçu. Ça s'appelle Les problèmes économiques et financiers. C'est le document que vous avez reçu par internet. C'était le texte que je proposais que vous lisiez aujourd'hui. Donc, vous l'avez reçu parce que c'est un texte du Vatican. Alors, ce n'est pas un message du pape, c'est un texte qui est fait par le dicaster du développement intégral. Donc c'est un des nouveaux dicasters qui a été créé par le pape François. Le dicaster, vous l'avez pas reçu?
Au début du cours,
il y avait le plan et puis il y avait des documents et il y avait les deux messages dont on a parlé la fois dernière. Il y a ce texte, mais seulement le texte en brut. Ce que vous avez ici, c'est le texte commenté. Et puis vous avez un texte que c'est celui dont on va parler la fois prochaine, qui est beaucoup plus court. C'est un message au peuple de Dieu, accessible, sans termes techniques, donc là, sans problème. Ça, c'était le plus hard, le plus dur à... Mais voilà, donc c'est... Là, ce texte est commenté par le CERAS. Ils ont travaillé ensemble, le CERAS, le service famille et société de la conférence des évêques et Justice et Paix.
D'ailleurs, vous étiez l'année dernière à la conférence des 3 jours.
Du CERAS, voilà, ouais, que c'était sur leur date aussi. Ouais. Voilà, donc je vais pas mal faire référence à ce texte. Et voilà, mais si vous ne l'avez pas lu, de toute manière, j'espère que ça va vous donner envie de le lire, le commentaire. Voilà, et donc, je commence avant d'aller sur le plan et vous dire un petit peu comment j'ai organisé la session, la séance. Voilà, vous dire un petit peu, en fait, c'est pas la première fois que au niveau du Vatican on parle des questions économiques et sociales, les questions économiques notamment et financières. C'est économique et financier, c'est des questions, je dirais, assez récurrentes dans les encycliques sociales. Et vous vous souvenez peut-être la première encyclique sociale qu'on avait évoquée quand on avait évoqué un peu les grands encycliques, c'était Rerum Novarum. Et Rerum Novarum, le thème central, c'est le travail. Donc évidemment, c'est l'entreprise, c'est l'industrie, c'est l'économie. Donc là, c'était la question du travail. Pour vous donner encore une autre encyclique qui parle essentiellement d'économie, c'est Centesimus Annus, donc 100 ans après Rerum Novarum. C'est une encyclique qui parle beaucoup du système économique. Il parle du libéralisme. Voilà, c'est la fin après la chute du mur de Berlin, donc c'est la fin du socialisme réel. Et donc voilà, il fait toute une analyse du système du capitalisme, si vous voulez. C'est un peu le thème qui est au cœur de Centesimus Annus. Et puis une autre encyclique que pour moi est très très importante au niveau économique, et peut-être aujourd'hui c'est, je pense, l'encyclique la plus importante en termes économiques, c'est Caritas in Veritate. Caritas in Veritate, on l'a déjà évoqué la première fois, c'est une encyclique de Benoît XVI. Elle a été publiée un peu de temps après la grande crise financière de 2008. En fait, ce texte aussi, elle fait écho à cette crise de 2008. Mais voilà, c'est une encyclique, donc ce n'est pas uniquement la question économique et financière comme dans son texte, dans ce texte, mais je pense que c'est un document important pour voir comment l'Église parle de l'économie et qu'est-ce qu'elle dit d'économie. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, un peu comme, peut-être pas en quantité pareil que la migration, mais la question économique est une question assez importante dans le discours social de l'Église. Alors, pour vous dire un petit peu, je vais surtout faire référence à ce texte, mais en intégrant des choses qui sont dites par l'Église dans des textes précédents sur l'économie. Alors voilà, il y a trois grandes parties donc c'est ce que vous avez dans le plan. Trois grandes parties. Alors, il y a une première partie que j'ai intitulée « La nature de l'économie et de la finance ». C'est pour vous dire un petit peu, quand on dit ce que c'est l'économie, en fait, nous avons tous dans nos têtes des représentations de l'économie. Si je vous dis économie, qu'est-ce que vous dites ?
Marché,
échange. Marché, échange.
Maison.
Production.
Finance, production.
Consommation.
Bien-être matériel.
Comment ?
Bien-être.
Emploi.
Bien-être matériel, mais bon.
Bien-être matériel. Ok, donc voilà. Donc c'est vrai qu'en général, quand on dit économie, on pense en général à ces trois grandes activités économiques que sont la production, la consommation et la finance. Donc voilà, c'est un peu les grands secteurs de l'économie. On pense avant tout à la production des biens et des services. Vous savez, dans la définition classique d'économie, si vous faites de l'économie, les manuels classiques de l'économie disent l'économie, c'est l'allocation des ressources rares entre des fins multiples. C'est-à-dire, l'objet de la science économique, c'est il y a des ressources dont nous avons besoin pour vivre et des besoins qui sont très grands, plus grands que les ressources disponibles. Donc, qu'est-ce que fait l'économie ? Il va distribuer ses ressources pour satisfaire les besoins humains. Et donc, l'économie reste en général limitée à une question très matérielle. Et même si on ne parle pas d'argent, aucun de vous a dit argent quand on a parlé d'économie. Et pourtant, je pense que dans l'imaginaire général, dès qu'on dit économie, on pense à l'argent. Mais voilà, l'argent, c'est un des moyens de circulation des biens et des services. Mais voilà, l'économie en général est associée à quelque chose de très matériel. Et vous allez voir, c'est pas du tout la conception de l'économie qui est proposée par le discours social de l'Église. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important. Et en ce sens-là, ce texte ici, pour moi, définit l'économie de manière encore beaucoup plus claire que les textes précédents. Donc première chose, qu'est-ce que c'est cette activité, qu'on appelle économie et finance. Et donc ça, je vais le mettre un peu en lien déjà avec le principe qu'on a vu la dernière fois, tout est lié. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai appelé la finalité de l'économie. Alors, je viens de dire, dans l'approche classique, la finalité de l'économie, c'est voilà, pouvoir produire les biens nécessaires pour satisfaire des besoins. On a des besoins, l'économie voilà, va créer, construire des maisons, créer des aliments, produire des vêtements. Donc, tout ce dont on a besoin pour satisfaire des besoins. Et donc, la finalité, c'est un petit peu satisfaction des besoins. Eh bien, encore une fois, là, le discours de l'Église va nous déplacer de cette finalité. Il va dire, ce n'est pas ça la finalité première de l'économie et de la finance. Donc, voilà, nature et finalité de l'économie. Et ensuite, voilà, à la fin, comme on a fait la dernière fois, je vais vous présenter un exemple de pratique économique. Alors, comme on parle de la finance, je vais vous parler en particulier d'une pratique financière et que je vais mettre en résonance aussi, comme la dernière fois, avec un texte biblique. Voilà le programme. Alors, donc, je commence donc par le premier, donc voilà, et la nature de l'économie. Alors, vous voyez, je vous ai mis déjà. Comme ça, vous avez déjà tout de suite la fin de l'histoire. S'il y a une chose que vous devez retenir, voilà, le message central que je voudrais un petit peu vous transmettre, c'est que l'économie, qu'en général est définie comme une science des biens, une science, comme je disais, biens et services, production des biens et services, en fait, pour le discours social de l'Église, l'économie est avant tout une science qui étudie les liens, les relations. Donc, c'est passé d'une discipline qui est, dont l'objet d'étude est avant tout la matière, les objets, les marchandises, à une discipline qui va mettre l'accent sur les liens qu'elle crée. Donc, voilà le message central, final, pour que vous ne vous perdiez pas au cours de route. Alors, donc, pour expliquer un petit peu ce déplacement, je le présente Premièrement, à partir d'un peu la conception de l'humain, puisque l'économie, c'est une science sociale. Vous savez, le problème de l'économie, c'est qu'elle utilise tellement l'outil mathématique qu'on finit par croire parfois que c'est une science exacte. Vous savez, quand les économistes parlent à la radio, et voilà, ils parlent des modèles économiques, plein de choses dont on ne connaît pas parce qu'elles sont très sophistiquées. Et donc, on a l'impression que c'est une science exacte. C'est vrai qu'en économie, aujourd'hui, on utilise énormément les mathématiques. Mais en fait, l'économie, c'est une science humaine. C'est une science sociale. C'est une science sociale. Ça fait partie des sciences sociales. Et donc, si c'est une science sociale, l'humain est central dans l'économie. Parce que c'est une activité qui est faite par des humains, par des hommes et des femmes. Et donc, c'est une science, c'est des activités qui sont... c'est pas des activités justement de manipulation matérielle d'objets. Les objets, c'est quelque chose qui va relier les personnes. Donc l'économie, c'est avant tout quelque chose qui met en lien les personnes. Donc la première chose, c'est de dire si l'économie, c'est une science humaine, puisqu'elle est avant tout, les activités économiques sont portées par des humains, par des hommes et des femmes. Donc la première chose à se poser comme question, c'est quelle est la conception de l'humain à partir de laquelle on peut penser l'économie. D'accord ? Toute science humaine, et pas seulement humaine, mais surtout toute science humaine et sociale, a sous-jacente une anthropologie. D'accord ? Tout modèle économique a sous-jacente une anthropologie, c'est-à-dire une manière de concevoir l'être humain. Et quand le discours social de l'Église parle d'économie, elle va justement commencer par dire quelle est sa représentation de l'humain. Et c'est à partir de cette représentation de l'humain qu'il va justement ensuite dire quelque chose sur l'économie. Alors, donc, l'humain, la pensée sociale de l'Église, on l'a déjà vu la dernière fois, c'est avant tout défini comme un être de relation. Comme un être de relation. Pourtant, vous savez que... En général, en économie, quand on parle de l'acteur économique, que ce soit le consommateur ou le producteur, ce qu'on va regarder, l'humain qui est sous-jacent, c'est avant tout comme un être qui a des besoins. Et donc l'économie, c'est ce qui sert à satisfaire des besoins. Donc l'humain, dans la plupart des modèles économiques, c'est un réservoir de besoins à satisfaire. Vous voyez, c'est une personne qui a besoin de manger, c'est une personne qui a besoin de se loger, c'est une personne qui a besoin de s'habiller. Donc l'économie permet que la personne puisse accéder à tous ces biens dont il a besoin. Donc l'humain, de ce point de vue-là, est réduit uniquement à un réservoir de besoins, d'accord, qu'il faut satisfaire. Le discours social de l'Église, il dit non, moi je pars d'une conception de l'humain qui n'est pas uniquement définie comme à partir de ses besoins, mais qui est définie à partir de sa dimension relationnelle. Le fait que c'est un être humain qui est capable de rentrer en relation avec les autres. Alors, donc, je voulais, pour soutenir ça, pour vous dire, c'est pas moi toute seule qui le dit, parce que c'est ma conception de l'économie, trois références qui me semblent intéressantes dans ce document dernier sur problèmes économiques et financiers. Alors, une première référence, c'est le numéro 8, si jamais vous voulez après y revenir. Il y a quelque chose que je trouve très beau quand il parle justement un petit peu de l'anthropologie sous-jacente dans les questions économiques. Il va dire en fait l'économie a besoin d'éthique. L'économie, c'est pas uniquement la gestion des ressources pour satisfaire des besoins. Donc, il y a besoin d'une éthique. Quelle est l'éthique dont on a besoin en économie? Et il dit quelque chose de très beau, il dit on a besoin d'une éthique amie de la personne. Une éthique amie de la personne. Vous voyez, je trouve l'expression très belle, ça vient de Caritas in Veritate, mais vous voyez l'éthique que souvent on l'associe un peu à la morale, on la voit comme des grands principes qu'il faut respecter. Il ne faut pas voler, il ne faut pas exclure le prochain, voilà, on a un peu cette idée des grands principes à respecter. Et en fait, ce n'est pas comme ça qu'on définit l'éthique, même l'éthique économique. L'éthique, c'est une éthique amie de la personne. C'est-à-dire qu'on est là clairement dans une dimension relationnelle. Vous voyez, quand on parle d'amis, amitié, c'est une relation. Ce n'est pas justement une question de respect des normes objectives, c'est une relation. Et donc, ce dont on a besoin pour penser l'éthique économique, c'est justement de penser, est-ce que l'économie, par exemple, crée des relations d'amitié, par exemple. Oui ? Ah non, je pensais que vous leviez la main. D'accord. Donc, première chose, vous voyez, si j'insiste là-dessus, c'est parce que vous avez, en économie, maintenant, c'est très à la mode, les chartes éthiques. Toutes les entreprises ont leur charte éthique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'économie et ne pas être éthique. Même celui qui est le plus corrompu du monde va avoir une charte éthique. Parce que voilà, il faut être éthique. On est dans ce monde où il faut être éthique. Notamment quand on fait de l'économie. Donc tout le monde a sa charte éthique, donc toute une série de grands principes. Et donc c'est ce qu'on appelle, en éthique, la déontologie. C'est-à-dire la déontologie, c'est comme des grands principes. Vous savez, tous les métiers, toutes les professions ont une déontologie. On parle de la déontologie des médecins, de la déontologie des juristes, des avocats. En fait, c'est des normes, un petit peu, qui régulent la profession, le métier. Et donc, l'approche éthique, en général, en économie, et notamment des chartes éthiques, c'est justement une approche déontologique. On va dire, voilà, on va respecter nos salariés, on va respecter nos clients, on ne va pas abuser de nos fournisseurs. Donc voilà les types de normes qu'on va définir quand on parle d'économie. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Mais le discours social de l'Église dit qu'il ne faut pas s'arrêter là. En fait, le plus important dans l'éthique, c'est justement une éthique qui permet de voir comment l'économie crée des relations et quel type de qualité des relations elle produit. D'accord ? Donc, ce n'est pas seulement est-ce qu'on respecte certaines grandes normes, qu'est-ce qu'elle produit en termes de relations ? Donc, voilà, c'est pour ça que cette idée d'une éthique amie de la personne, et je trouve que c'est très belle. Et puis, vous savez, dans le discours catho, très souvent, quand on parle d'économie, et notamment le milieu de l'entreprise, ils vont souvent dire il faut mettre l'humain au cœur de l'économie. Ça, on l'entend à droite et à gauche. Moi, je ne peux plus l'entendre, ça. Il faut mettre l'humain, c'est un peu comme les chartes éthiques, il faut mettre l'humain au cœur de l'économie. Tout entrepreneur va vous dire qu'il met l'humain au cœur de l'économie, il travaille avec des hommes et des femmes. Donc, évidemment, et personne ne va dire qu'il abuse des personnes avec lesquelles il travaille. Donc, mettre l'humain au cœur de l'économie. Mais vous voyez, ici, ce n'est pas ça qui est dit. Ce n'est pas mettre l'humain au cœur de l'économie, c'est mettre l'amitié humaine au cœur de l'économie. Et c'est complètement différent. C'est la qualité des relations, et une relation, vous voyez, dès qu'on dit une relation d'amitié, c'est un petit peu, ça renvoie à ce qu'on avait déjà vu la dernière fois, et dans Laudato si, mais aussi en Caritas in Veritate. Quand on parle de politique, on parle d'amitié et civile. Vous savez, on disait, la politique devrait être un lieu d'amitié civile. Eh bien, l'économie devrait être également un lieu d'amitié humaine. Donc, voilà, première chose pour dire pourquoi là, en économie, c'est complètement lié à cette dimension relationnelle. Deuxième chose qui est dit très clairement dans ce texte, les problèmes économiques et financiers, c'est numéro 9, là je parlais du numéro 8, numéro 9, il va définir clairement quelle est la vision de l'homme sous-jacente pour le document, et quand il parle d'économie. Et il dit, en fait, l'homme, l'être humain, ce n'est pas ni un consommateur, ni quelqu'un qui cherche à optimiser ses gains pécuniaires. Donc, l'humain ne se définit pas uniquement par sa capacité de consommation en tant que consommateur. Le problème, c'est qu'en économie, voilà, souvent quand on parle des acteurs, on va parler des consommateurs. Donc, il n'est pas uniquement un consommateur, il n'est pas non plus quelqu'un qui cherche à gagner plus, parce que c'est ça, optimiser ses gains pécuniaires. En fait, l'humain, pour l'économie telle qu'elle est conçue dans ce document, c'est un être doté singulièrement d'un caractère relationnel. Voilà comment il définit l'être humain. Un être doté singulièrement d'un caractère relationnel. Vous voyez, c'est bien dit là que l'approche, l'anthropologie sous-jacente pour parler de l'économie est celle de l'acteur économique comme un être relationnel, un être capable de relation. Donc voilà, deuxième élément qui va tout à fait dans ce sens que l'économie met au cœur la relation entre les humains. Et puis, encore un petit peu plus loin, dans le numéro 10, il continue à parler de l'être humain et de l'anthropologie sous-jacente. Il dit qu'il considère l'humain comme un sujet constitutivement inséré dans un ensemble de relations. Donc vous voyez, définition encore de l'humain, comment est-ce qu'on définit l'humain ? Comme un sujet constitutivement inséré dans un ensemble de relations. Je trouve que c'est très important chacun de ces mots. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est en relation avec les autres. Il est constitutivement inséré dans un ensemble de relations. C'est-à-dire que la dimension relationnelle est constitutive de l'être humain. Ce qui identifie à l'être humain, c'est le fait d'être en relation avec les autres. D'accord ? C'est pas un être, voilà, en soi, qui ensuite, pour satisfaire ses besoins, va rentrer en relation. Non, c'est l'inverse. C'est le fait qu'il est en relation qui définit, qui identifie ce que c'est l'être humain. Donc voilà, et il dit, en plus, c'est un être qui, avant tout, il est appelé à la communion. Donc voilà, même là, et là on rejoint les choses qu'on a vues la dernière fois, c'est un être relationnel, mais un être qui est appelé avant tout à construire des relations de communion. Donc ce n'est pas n'importe quel type de relation, c'est des relations de communion. Donc voilà, si vous voulez, premier point, l'anthropologie sous-jacente, pour parler de l'économie, selon le Vatican, c'est justement un être de relation. Donc c'est à partir de là qu'on va penser l'économie. Deuxième point, c'est alors à partir de là, quelle conception de l'économie et de la finance ? Si l'humain c'est un être de relation, comment est-ce qu'on définit l'économie et la finance ? Eh bien là, c'est très clair, on va dire, ça maintenant ça découle, l'économie et la finance vont être avant tout des lieux de mise en relation. L'économie, à quoi ça sert ? À mettre en relation les personnes qui avant tout sont identifiées, définies comme des êtres relationnels. Alors, là, je voulais décliner ça à trois niveaux. D'une part, l'économie au niveau individuel, puisque vous savez que quand on parle d'économie, comme on vient de le dire, on parle des acteurs économiques, et chacun de nous est un acteur économique, même si on n'a pas une entreprise, et voilà, chacun de nous est un acteur économique, et chacun de nous est responsable de ce qui se passe au niveau économique dans notre pays. Chacun de nous est responsable de l'économie que nous avons. Et donc la première question à se poser, c'est moi en tant qu'acteur économique, voilà comment je me situe dans la société d'aujourd'hui. Donc au niveau individuel, ensuite au niveau qu'on appelle en économie microéconomique, donc c'est au niveau de l'entreprise, et ensuite au niveau macroéconomique, c'est un petit peu les grandes questions économiques, les politiques économiques, la politique de par rapport au chômage, par rapport à la finance, voilà, les grandes politiques économiques. Là, on passe à un niveau macro et donc on va parler du marché. Alors, donc, au niveau individuel, alors là, c'est très intéressant. Donc, je reviens au numéro 9 du document. Et en fait, il dit, il va parler des échanges. Vous savez, l'économie, on échange, on passe notre temps, c'est le marché qui est au centre de l'économie. Voilà, on achète et on vend des biens. Donc, on échange des biens. Et en fait, il dit, c'est très beau, il dit, on croit que les échanges des biens, c'est des échanges des choses. On échange des choses. Par exemple, j'ai besoin d'une table, donc je vais acheter une table. Et je donne de l'argent au fabricant des tables, et il me donne la table. Donc on échange de l'argent par une table. On échange des choses. On échange des objets. Voilà. Et il dit que ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. En fait, quand on échange des choses, le plus important, c'est qu'on échange des biens immatériels. À travers l'échange des choses, on échange quelque chose qui est immatériel. Et donc c'est pour ça qu'il dit que dans l'économie, le plus intéressant, c'est d'essayer de voir quand on échange, c'est-à-dire quand on va acheter des choses, justement, quel type de relation j'ai avec la personne avec laquelle j'échange. Un exemple tout bête, vous savez que si vous achetez votre baguette de pain au boulanger du coin, c'est complètement différent que si vous achetez votre baguette de pain dans le grand supermarché. Parce que normalement, avec le boulanger, vous allez parler, peut-être vous allez retrouver des voisins qui vivent à côté. Et donc, vous voyez, en achetant la baguette de pain, il y a tout un tissu relationnel qui se fait autour de cet échange. Et puis, vous allez demander des nouvelles pour la famille, parce que le pauvre boulanger a sa femme malade, et puis voilà, et son fils qui est parti. Donc, voilà, l'échange de biens est une manière d'échanger des relations. Quand vous allez au supermarché, très rarement vous parlez, même pas maintenant, il y a presque de moins en moins des caissières. Donc, voilà, vous parlez avec personne, surtout pas avec celui qui a produit la baguette de pain. Donc, voilà, l'échange des biens, c'est un lieu d'échange de relations. Et un même bien peut être objet des relations très différentes.
Oui. On achète sur Internet, il n'y a plus
de bien. Ben absolument, absolument, même pas. Alors là, c'est un peu comme le supermarché, si vous voulez. Alors, si vous voulez, ce que là, c'est justement, c'est l'extrême, en fait. Alors, disons que si vous vous faites livrer, au moins vous allez voir le livreur. Mais en tout cas, pas le producteur. Mais en fait, ce qu'on va voir après, c'est comment, justement, même si aujourd'hui on est complètement inconscient, parce que quand on achète quelque chose, c'est parce que j'ai besoin. J'achète une baguette parce que j'ai faim, j'achète une table parce que j'ai besoin chez moi d'avoir une table. C'est de dire que même si je ne vois pas le producteur, chaque fois que j'achète un bien, j'ai un impact sur quelqu'un d'autre. J'établis une relation avec quelqu'un d'autre. Quand je choisis d'acheter dans cette boulangerie et pas dans celle d'à côté, je choisis de bénéficier d'une personne et de ne pas bénéficier d'une autre. De rentrer en relation avec une personne et pas avec une autre. Donc, chaque acte de consommation, c'est un choix éthique. Et même un choix politique. Parce que selon à qui j'achète et selon ce que j'achète, je crée un certain type de relation avec l'autre, je bénéficie d'un certain type de producteur et donc je construis un certain type de société. Si je décide d'acheter tous mes produits congelés et faits par les grandes multinationales, donc voilà, je sais que ma consommation bénéficie avant tout les grandes multinationales. Moi, enfin, c'est pas pour vous dire, mais vous avez vu, j'avais une canette de coca. C'est pour dire, je fais aussi, je sais aussi que chez mes incohérences. Mais c'est pour vous dire que, en fait, l'idée de l'économie comme dimension relationnelle, c'est de dire, chaque fois que je choisis d'acheter quelque chose, est-ce que je pense à, en relation avec qui je me mets en achetant ce bien, même si je ne vais jamais rencontrer le producteur.
C'est pas tellement une question de la nature de la transaction, c'est plutôt une question de notre conscience.
Alors, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux, parce que vous voyez, si on a une économie qui est toute organisée par des petits commerces, donc, alors non, ça marche, oui, il y a plein de lieux où ça marche. Mais je veux dire, là c'est le système, vous voyez, ça c'est la nature de l'échange. C'est une économie qui favorise l'échange de proximité. Et donc là, évidemment, après, mais je veux dire, c'est aussi dans la nature de l'échange. Si c'est une économie, c'est un lieu intérieur où pour acheter il n'y a que la grande surface, donc là la nature de l'échange est complètement différente que celle
de conscience au sens pas de d'éthique, mais conscience au sens de l'attention.
Oui, l'attention. Oui. Je suis complètement d'accord avec vous, mais je vais dire, c'est vrai, parce que je peux aller dans la grande surface et choisir des choses ou par exemple des produits qui sont équitables, des produits où je sais, maintenant en plus on fait beaucoup attention à la traçabilité, à l'origine des produits. Mais vous voyez, même quand on parle de traçabilité, aujourd'hui c'est très à la mode, en fait, et même c'est des normes, c'est encore une fois pour penser à ma santé. Je choisis des choses qui ont une origine locale, parce que je pense qu'elles sont plus frais que ceux qui viennent de l'autre bout du monde. Est-ce que je le fais parce que je veux privilégier le petit producteur local? Voilà, c'est un peu ça la question. Et donc là, vous avez raison que c'est une question de conscience, mais je pense que les deux choses vont ensemble. Il y a certains types d'échanges qui facilitent d'avoir une conscience, voilà, de plus attention à celui qui a produit. Donc, voilà, au niveau individuel, donc, voilà, quand on échange des biens, en fait, on échange des biens immatériels. À travers les objets, se créent des relations, même si on n'est pas du tout conscient, même si on n'a pas un lien direct avec le producteur. Vous savez, je ne sais pas si vous achetez des produits du commerce équitable. Vous voyez ce que c'est le commerce équitable? Le commerce équitable, c'est quoi? Vous n'allez jamais rencontrer le petit producteur qui a fait le paquet de café équitable. Mais vous savez, si vous achetez un paquet de café équitable, on va vous raconter qui a produit ce café, comment il s'appelle, combien d'enfants il a, dans quel village il habite, dans quelle coopérative il travaille. Il personnalise le produit. Le produit, ce n'est pas simplement du café pour satisfaire nos besoins, et le plus bon et le meilleur et celui que j'aime le plus. Le produit, c'est quelque chose qui a été produit par une personne particulière. C'est ça le commerce équitable, c'est personnaliser les produits. Et donc, du coup, je rentre en relation avec lui, même si je ne vais jamais le rencontrer. Parce que du moment que j'achète ce produit, il va bénéficier de mon achat. Et donc, à travers l'achat du produit, je rentre en relation avec lui. Donc, voilà, et au niveau individuel, cette question de l'économie comme lieu de relation. Alors, ensuite, au niveau micro, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise. Et là aussi, c'est très intéressant. Alors là, numéro 23, encore du document, il va définir, il va parler de l'entreprise. Et il va dire, chaque entreprise constitue un réseau de relations et le représente en fait un véritable corps social intermédiaire. Voilà la définition d'entreprise. Un réseau de relations. Vous voyez, c'est pas comme ça qu'on définit l'entreprise en économie. En général, l'économie, l'entreprise est... une société qui produit un certain bien ou service. Et là, on ne définit pas l'entreprise par ce qu'elle produit, ni par ce bénéfice. Aujourd'hui, on va placer les entreprises, voilà, celles qui sont en bonne santé, c'est-à-dire qui produisent un bénéfice, et celles qui sont en mauvaise santé. Pas du tout. Il va dire, l'entreprise, c'est un réseau de relations. Parce que vous savez, dans une entreprise, si vous avez travaillé en entreprise, en fait, l'entreprise, c'est une communauté humaine. C'est un groupe de hommes et femmes qui ont un projet commun et qui sont rassemblés autour d'une activité commune. Et donc, encore une fois, ce que le discours social de l'Église dit, l'entreprise, il ne faut pas la voir uniquement en fonction de son résultat final, mais il faut la voir en fonction de qu'est-ce qu'elle fait vivre ensemble à ces personnes qui ont un projet commun. Qu'est-ce qu'ils vivent ensemble? De quelle manière ils participent à une identité commune? De quelle manière chacun se sent partie de ce projet commun? Vous voyez, s'il y a des entreprises dans lesquelles celui qui décide, c'est uniquement le dirigeant, mais les salariés ne participent pas du tout aux décisions, donc évidemment, là, on ne peut pas dire que cette entreprise est une communauté dans le sens que nous entendons communauté. Mais voilà, c'est ça. C'est le fait de dire l'entreprise est avant tout un groupe, un réseau des relations, et il faut avant tout la regarder par la qualité relationnelle de ses membres. Donc voilà, aussi l'entreprise prend en compte et définit avant tout par la dimension relationnelle. Et puis, troisième niveau, le marché, c'est-à-dire au niveau macro. Et alors, ce document va beaucoup parler du marché. Et en fait, il va dire, alors là, je reviens au numéro 1, puisqu'il part, le numéro 1 du document est... Le point de départ, c'est le marché. Et donc, il va lire, c'est génial, il lit le fondement éthique du marché et de garantir le bien-être en termes de qualité humaine des relations. C'est-à-dire, le marché, on va analyser le marché en fonction de la qualité humaine des relations dans ce marché. Vous voyez, le marché, c'est pas... Alors, quand on dit marché en économie, c'est pas seulement le marché des fruits et légumes où on va le mercredi ou le samedi. C'est ça aussi, mais c'est pas seulement un lieu physique. Le marché, c'est tout échange des biens et des services. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, encore une fois, le marché, c'est pas seulement le lieu où on échange des choses. Le marché, c'est avant tout un lieu qui crée des relations et qui doit être analysé par la qualité humaine des relations. Vous voyez ? Analyser, évaluer le marché par la qualité humaine des relations. Et là encore, dans le numéro 8, il le dit, il le redit avec d'autres mots, les marchés, avant de reposer sur des dynamiques anonymes, sont basés sur des relations. Vous voyez encore la même chose. Le marché est quelque chose de très anonyme. je reviens à l'exemple des grandes surfaces, des supermarchés. Là, justement, on parle avec personne, on achète le bien, on ne voit pas les producteurs et on achète en fonction du prix et des besoins. D'accord ? Complètement anonyme. Les biens sont complètement anonymes. Et en fait, là, l'idée, c'est de dire, derrière chaque bien, il y a une personne. Et donc, derrière chaque achat, il y a une relation, même si je ne rentre pas en lien direct avec la personne. Vous n'étiez pas d'accord ?
Oui. Ça montre une vision un peu dichotomie du marché. Mais derrière la chose que j'achète au supermarché, il y a aussi des équipes d'acheteurs. Voilà, c'est des jeunes qui sont un jeune qui est acheteur chez Leclerc, il entend son travail. C'est un travail qui est éminemment subjectif. Là, il n'y a pas que des. Enfin, il n'y a pas que du quantitatif dans son travail, il y a une subjectivité
évidemment.
Qui est énorme.
Mais évidemment, mais justement, ce que fait le discours, ce n'est pas de dire ça n'existe pas dans le marché, c'est de dire le marché n'est jamais regardé par les types de relations qu'il crée. Oui. Évidemment, dans toute relation de travail, vous êtes en train de parler des gens qui travaillent dans les grands supermarchés, souvent ce sont des gens, ce sont des travaux très précaires, ce sont des gens qui sont pas souvent très bien reconnu, parce que c'est des petits travaux pas qualifiés. Et donc, là, on va voir juste une caissière, juste quelqu'un qui fait un service. Et c'est de dire, attention, quand tu vois une caissière, c'est quelqu'un qui a une relation de travail avec son patron, qui a une relation avec le client, voilà, qui a une relation avec ses collègues. Et c'est de voir le travail comme un lieu qui crée des relations. C'est ça. Donc évidemment, il n'est pas en train de dire aujourd'hui le marché n'est pas du tout relationnel. Il dit, ces relations sont au cœur du marché, mais ce n'est pas ça qu'on met en avant quand on analyse l'économie. Voilà. Et en fait, et on passe son temps à analyser l'économie. Vous voyez, dès que vous allumez la radio, pas aujourd'hui parce qu'elle est en grève, mais je ne sais pas si elle est levée, mais ce matin, je n'avais pas eu les informations. Mais en général, les premières nouvelles sont des nouvelles économiques. L'information économique, mais jamais, bon, on va vous dire Leclerc l'action de Leclerc sur la bourse a baissé. On ne va pas vous dire, alors sauf si c'est un programme qui s'intéresse aux questions sociales, on ne va pas vous dire, voilà, Leclerc a licencié, sauf quand il licencie à grand nombre, ça devient un événement social. Voilà. Mais voilà, mais la première chose qu'on voit de l'économie, c'est ce qu'elle produit en termes de quantité de biens et en termes de bénéfices financiers.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même beaucoup d'idéalisme quand on dit que finalement le résultat final, c'est pas l'essentiel, etc. Une entreprise qui n'est pas rentable, toute l'humanité qu'on puisse y investir, ça ne marchera pas.
Non, absolument, absolument, absolument. Tu as tout à fait raison, mais il ne dit pas qu'il faut oublier le résultat matériel et qu'il faut remplacer par le résultat humain. Pas du tout.
Il dit pas ça. C'est en seconde.
C'est en seconde.
C'est ce que tu as dit en seconde.
Oui, c'est en seconde. Il dit il faut choisir la priorité. Alors, je pose, évidemment, une entreprise qui ne peut pas. Mais tu sais, toute entreprise, quand elle démarre, elle s'endette. C'est impossible d'avoir bénéfice dès que tu démarres. Donc, l'endettement, voilà, mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas vivre endetté très longtemps. Donc, à un certain moment, si on ne commence pas à avoir de bénéfices, voilà, on fait faillite. Ça, c'est clair. Alors, c'est vrai que ça, c'est une condition de l'activité économique, le fait d'avoir, de créer un bénéfice. Mais ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas ça la finalité. Le profit, c'est un moyen. D'accord.
Mais c'est un moyen essentiel.
Mais c'est un moyen essentiel. En économie, sans profit, on ne peut pas.
C'est un moyen essentiel.
Essentiel, exactement. C'est vrai, c'est essentiel. Mais on l'a tellement donné comme essentiel qu'il est devenu absolu. Et il est devenu la première finalité. Et donc, et même c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est ça ce qu'il me dit. Le profit n'est pas une finalité en soi. Et aujourd'hui, l'organisation de l'économie, et notamment de la finance, est telle que, vous voyez, même chacun de nous, je vais y revenir après, quand on place de l'argent à la banque, qu'est-ce qu'on demande à notre banquier ? Quel est le placement qui me donne l'intérêt le plus élevé ? Ce que je veux, c'est gagner de l'argent avec mon épargne. Eh bien, ce qu'il dit, c'est la première chose qu'il faudrait demander à mon banquier, c'est pas quel est l'intérêt le plus élevé, mais c'est qu'est-ce que vous faites avec mon argent? À qui vous la prêtez? À qui bénéficie mon argent?
De plus en plus.
Ouais.
Mais maintenant, on va vers d'autres objectifs. On va y revenir.
On
propose effectivement différentes alternatives.
Mais les banquiers proposent.
Est-ce que vous voulez quelque chose de, qui correspond plus à votre éthique?
Voilà, il y a de plus en plus parce que, heureusement, il y a une demande, un marché éthique aussi qui s'est développé. Donc les banques ont dit, là il y a des gens qui veulent placer de manière éthique, donc il faut faire
et en plus ça marche.
Mais voilà, en plus ça marche. Mais c'est ça ce qui est important. C'est pas que si je le donne, je place mon argent de manière éthique, je perds de l'argent. Alors peut-être que je vais gagner moins. Ça c'est sûr, parce que vous savez, les intérêts des placements financiers aujourd'hui, c'est un scandale. En fait, on ne peut pas avoir 10% d'intérêt dans son placement. C'est un scandale total. Donc voilà, c'est d'accepter qu'il puisse avoir un intérêt, un bénéfice qui soit accorde avec ce que l'économie réelle peut produire. Et donc voilà, mais ce n'est pas non plus de perdre. Si je veux perdre, je fais un don. Je ne fais pas un placement. Mais aujourd'hui, on peut placer en prenant en compte à qui va bénéficier mon placement. C'est ça. Et donc voilà, et c'est ça de mettre en avant la relation. Donc c'est pas les opposer, et tu as tout à fait raison, c'est pas les opposer, c'est pas de dire profit financier contre relation humaine, pas du tout. Mais c'est de dire, on a concentré toute notre attention de l'économie sur le profit généré, sur la quantité de biens produits, et on a oublié que derrière tout ça, il y a des relations humaines. Et donc l'économie est avant tout un lieu qui met en relation des personnes. Parce que, vous voyez, il n'y a pas d'économie sans relation. Vous voyez, qu'est-ce que c'est la consommation? C'est la relation entre quelqu'un qui achète et quelqu'un qui vend. Qu'est-ce que c'est le marché financier? C'est la relation entre quelqu'un qui a de l'argent et qui met de côté et quelqu'un qui en a besoin pour développer un projet. Donc, entre épargnants et investisseurs. Qu'est-ce que c'est le marché de travail? C'est la relation entre un employé et un employeur. À chaque fois, toute activité économique, c'est la mise en relation entre deux acteurs. Et ce que dit le discours de l'Église, c'est qu'il faut pouvoir évaluer l'économie à partir de la qualité des relations qu'elle produit. Et pas uniquement en fonction du profit, de la rentabilité financière ou en fonction de la quantité des biens, de la richesse produite. D'accord? Donc c'est ça ce qu'il dit. Donc il n'est pas en train de dire il faut pas faire de la rentabilité.
Il n'en parle pas beaucoup quand même, hein, de rentabilité et de... C'est quand même, du coup, on passe presque à l'extérieur.
Ah, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, si vous lisez... Non. Alors, je pense que là, vous savez, le problème, c'est qu'on vient de très loin. Donc là, de remettre un petit peu de relationnel au milieu des activités économiques, en fait, que l'économie doit faire du profit, ça, c'est presque une banalité. Tout le monde, voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire... C'est pas la seule finalité. Et puis, alors, je vais vous dire, dans la deuxième partie où il va parler plus des outils financiers, à aucun moment, par exemple, je vais vous dire, moi je travaille dans l'économie solidaire. À aucun moment, par exemple, sauf il va parler du microcrédit, mais à aucun moment il va mettre en avant des pratiques d'économie alternative. Il reste complètement dans l'économie classique. À aucun moment il va dire il faut sortir du capitalisme. À aucun moment il va dire voilà, ce qu'il va dire c'est aujourd'hui il y a un excès dans la spéculation, un excès dans les profits recherchés, un excès dans les placements qu'on fait dans les marchés offshore où il n'y a aucun contrôle, un problème dans la fiscalité qui bénéficie les plus riches et pas les plus pauvres. Donc on n'est pas du tout en train de dire ne gagnez pas de l'argent, pas du tout, mais il est en train de dire attendez, la finalité n'est pas de gagner le plus d'argent. La finalité, c'est que cet argent puisse permettre de vivre ensemble. Donc, voilà. Je pense qu'il n'y a pas... On n'est pas qu'on passe du capitalisme au communisme, en fait, si vous voulez. Voilà. Alors, donc... Dernière chose de ce premier point, c'est... Je disais, voilà, pour faire... Alors, vous savez, une des critiques qu'on a fait à ce texte, même si pour moi, au niveau anthropologique, est complètement en cohérence avec Laudato Si, il parle presque pas Il parle presque pas de la nature. Donc c'est un peu bizarre, parce que c'est venu après Laudato Si. Et en fait, il y a très peu de références à la question. Et même quand il va parler du développement intégral, il va parler du développement de tous les hommes et de tout l'homme. Et donc la nature apparaît à peine une ou deux fois. Et pourtant, je pense qu'au niveau anthropologique, c'est exactement la même anthropologie qui est sous-jacente dans Laudato Si. Et c'est pour ça que je disais, pour moi, la conception de l'économie qu'il y a dans ce document est la même que celle de l'écologie dans Laudato Si. Vous savez, ce qui est très intéressant, je pense que c'est vous qui disiez quand j'ai dit qu'est-ce que vous mettez derrière le mot économie, c'est quoi, vous avez une maison, parce que vous avez l'origine du mot économie, c'est oikonomia, donc c'est la gestion de la maison. Oikos, c'est maison en grec. Et l'origine du mot écologie, c'est oikologie, c'est aussi, il y a dans la racine du mot écologie, oikos et donc maison. Donc tous les deux font référence à la maison, la gestion de la maison ou la logique de la maison. Et je trouve que c'est très beau que écologie et économie soient reliées par cette référence à la maison. Pourquoi ? Parce que quand on parle là de maison, c'est pas le bâti, c'est pas le toit, les murs, le sol. La maison, c'est le lieu où on est chez soi. La maison, c'est le lieu ou de plus grande intimité pour une personne. La maison, c'est le lieu où on vit en famille. La maison, c'est où on est chez soi. C'est avant tout un lieu de relation. C'est avant tout un lieu de relation avec soi, avec les autres, et peut-être avec la nature et avec Dieu, comme dit l'écologie intégrale. Donc voilà, pour moi, dans écologie, dans économie, même si on ne parle pas d'écologie beaucoup dans ce texte, et toutes les deux, il y a cette référence commune à une anthropologie relationnelle. C'est-à-dire, l'économie et l'écologie, tous les deux, l'écologie, on le disait la dernière fois, c'est avant tout la relation à soi, aux autres, à la nature et à Dieu. Eh bien, on peut dire qu'il est dit exactement la même chose par rapport à l'économie. L'économie doit se penser avant tout, pas contre le profit, mais avant tout comme un lieu de relation, de mise en relation avec soi-même, avec les autres, avec la nature et avec Dieu. Voilà donc pour la nature. Est-ce que vous voulez faire la pause maintenant? C'est 3 heures.
Moins 5.
Oui. Moins 5. Moins 3. C'est que là, je rentre dans un gros paquet. Ok. Oui, avec Laudato Si. Vous avez aimé? Ouais, c'est ça le problème. À Paris, il y a beaucoup trop d'offres. Alors, c'est le. Oui, c'est Serras. En fait, l'éditeur, c'est Lissu.
Ah, c'est
Lissu. Voilà, mais Serras travaille souvent, je pense, avec Lissu. Donc, voilà.
Oui, bah, il travaille beaucoup avec
Lissu. Oui, oui. Ah d'accord, ok, je vais mettre Lila. Lila pour ça.
Voilà. Et si vous avez besoin, moi je suis osteopathe.
Comment?
Et si vous avez besoin de moi, je suis osteopathe.
Ah d'accord, c'est génial. C'est double. Voilà. Et lui, c'est osteopathie. D'accord.
Je vais parler de mon curé aîné là.
Oui,
l'autre jour, la semaine dernière, on s'est dérangé. Dans son homélie, il disait quand c'est gratuit, c'est plus cher.
Ah oui.
Parce que c'est la vérité, c'est la relation. Donc c'est un autre investissement.
Tout à fait, tout à fait. On va y revenir. Mais c'est exactement ça. Ouais. Il y a une autre valeur. Ouais.
Là, l'autre fois, quand j'ai essayé de l'avoir à la FNAC, ils m'ont dit non, voilà la brochure.
Ah bon?
Ouais, non, pas la FNAC.
Oh là là.
Non, non, pas la FNAC.
Ouais.
Et j'ai même pas trouvé le ce que je l'avais vu. J'avais
celui-ci?
Vu. Non, celui-là, non, j'ai pas regardé. J'ai regardé votre texte. Mais le texte du peuple, là, ça n'y était plus non plus.
Laudato aussi toute seule.
Mais il n'y était pas non plus.
Non plus.
Non plus.
Oh là là, la FNAC.
La FNAC, madame m'a dit, allez à la procure, place Saint-Sulpice.
Ouais, parce que c'est. Et pourtant, la FNAC a des. Ayant religieux. Ben voilà.
Et voilà.
Ça va ?
C'était avec Isabelle dans un marché l'autre jour. Parce qu'elle faisait un truc pour façon dans un marché.
Tout à fait, absolument.
C'était à côté de la cato, donc on est allé, on a parlé de vous.
D'accord, vous êtes venu récemment.
Oui, oui, oui. Ouais,
d'accord,
ouais.
Ok. Bah, moi, je vais proposer qu'on soit à midi, là, avant le déjeuner, mais elle a beaucoup de choses. Voilà, elle fait beaucoup autre chose.
Je voulais vous demander si vous connaissiez ou si vous aviez déjà entendu une conférence en fait, c'est bientôt, c'est beaucoup de points de la réforme sociale de l'Église, qui est une conférence sur des nouvelles façons de gérer, des nouvelles organisations. C'est un Belge qui s'appelle Frédéric Laloux, L-A-O-L-O-U-X. Je crois qu'il a écrit un livre qui s'appelle Réinventer en anglais, Reinventing Organization, ou un truc comme ça. Et c'est passionnant.
Ah oui ?
Oui, et il a fait une conférence, on cherche sur YouTube, on trouve sa conférence. Alors c'est assez long.
D'accord.
Mais en fait, il est parti du constat. Il travaillait lui-même dans une société de services, consulting ou autre. Sinon, moi, je ne peux pas continuer à travailler comme ça. Il dit pas que c'est l'économie, mais rien qu'on retrouve en tout ça. Si je ne l'ai pas, en tous les cas, on retrouve. C'est passionnant. Parce qu'il s'est dit, mais je vais chercher des entreprises où la gestion, notamment des hommes, n'est pas traditionnelle. Pas de lien hiérarchique. Comment ça fonctionne? Comment justement les gens sont en relation les uns avec les autres. Donc il a analysé, je crois, les usages d'entreprise et il a cherché les points communs. Mais justement, les points communs, c'est toutes les relations qu'il y avait. Les relations des hommes et des relations non hiérarchiques. Et donc, comment, en fait, dans une entreprise, et où bien sûr, comme vous disiez, finalement, on oublie ça du tout, la finalité que l'entreprise fonctionne, mais qui est comment va-t-elle fonctionner mieux et comment on va pouvoir être mieux tous ensemble pour avancer. Et c'est passionnant.
D'accord.
Et alors tu t'es dit, effectivement c'est bien pour l'économie, en écoutant comme ça, c'est bien pour l'économie, mais ça ne peut pas marcher dans tous les domaines de la société. Je pensais à ça parce qu'il y a un peu de sujet. Je l'écoutais. En fait, ça revenait avec une conversation qu'on avait eue la veille sur le travail des infirmières et des infirmières à domicile. Et justement, ça venait faire écho immédiatement parce que le premier exemple qu'il donnait était un infirmier. Ça se passe aux Pays-Bas. Qui a dit, moi je ne peux plus continuer à travailler comme on me demande. C'est-à-dire, je suis dans un soin de service à domicile, on me dit, tu as tant de temps pour faire le pansement, après tu as tant de temps pour te déplacer chez la mère, tant de temps pour faire ce sujet. Non, mais c'est pas possible. Il a dit, moi je vais travailler entre les assistants. Et il a créé en fait une autre société de service qui aujourd'hui, c'était peut-être il y a une dizaine d'années, qui aujourd'hui a rappelé 70% on va dire, du marché du service à la personne. Aux Pays-Bas, parce qu'en fait, on travaille d'une façon différente. Et il a dit, dis-moi ce que je veux. Et on revient toujours dans la relation. La première chose qu'on doit faire, quand on va voir quelqu'un à la maison, c'est savoir qui il est, c'est de s'asseoir, c'est de prendre un café avec lui, c'est de connaître la famille, c'est de connaître les amis. Quand il y a un problème, je sais où aller chercher. Je ne vais pas appeler pour que la personne hop, aille aux urgences parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et donc en fait, c'était amusant parce que la conférence commençait et puis immédiatement je me dis non, mais ça ne peut pas marcher pour tout. Et Donc c'est hyper intéressant. Je pense que ça vous intéresse.
C'est très important dans votre domaine.
Non, c'est exactement ça.
À ce moment qu'il y a des choses qui sont possibles, et tout en restant avec
c'est un objectif de rentabilité,
parce que ça fonctionne. Et que ça se développe. Mais vous savez, dans l'économie sociale et solidaire, il y a pas mal de choses.
Mais alors là, pour le coup, c'est parfois des grandes échelles.
Pas loin de 25 ans chez Danone. Ma dernière entreprise, c'était Danone, que j'ai arrêté en septembre. Et en particulier, ça fait partie des messages que j'ai passés à mes jeunes collègues, c'est que pour moi, il y avait une dimension sociale et relationnelle qui était extrêmement importante. Et dans la motivation des individus, c'est fondamental. Donc, au-delà de l'aspect purement effectivement économique, il y a quelqu'un qui est motivé parce qu'il y a un climat relationnel qui est génial. C'est comme ça que
c'est central.
Et puis après, il y a l'aspect social business sur lequel, par exemple, nous vous donnons, il y a une volonté, tout un tas de social business. Et donc, on incite les salariés à placer une partie de l'intéressement, même si ça rapporte moins,
dans ce type de projet. Vous étiez dans quel.
Moi, j'étais en recherche de développement.
D'accord.
J'ai travaillé en recherche. C'est vrai qu'on est plus loin
de l'aspect commercial,
même si c'est quand même l'objectif.
Mais bon, voilà, vous êtes au service commercial. Donc...
Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même tout un tas de choses, mais tout le monde n'a pas cette ouverture d'esprit à penser à la
dimension. Et puis, quand les choses fonctionnent bien, ça va. Quand les choses fonctionnent mal,
Lorsqu'on est dans une situation économiquement tendue, là, c'est pas
Ça, c'est l'avantage des grands groupes comme Danone.
Mais en même temps, il y a quand même des moments. C'est là où il faut arriver à garder un peu, puis même lorsqu'on prend par exemple des supermarchés, selon les supermarchés, on peut sentir aussi des ambiances de travail différentes.
Absolument. Ça on le sent. On voit la manière dont parlent les employés.
Comment ils parlent entre eux, comment éventuellement ils discutent à une pause, s'ils prennent la pause dehors.
Ça se sent.
Même si j'ai pas tout vu, j'avoue que j'ai trouvé que c'est pas.
D'accord, mais vous avez des clés pour le lire.
Je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez me dire tout l'économie solidaire, tout ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et ils sont pas filière ES, STMG. On parle très très peu, voire pas du tout. Est-ce que vous pouvez.
Alors, moi, je pourrais. Il y a deux choses. D'une part, c'est vrai que j'ai beaucoup.
C'est pour ça que je pense soit vous, soit
beaucoup de sollicitations. Et puis, là, l'année prochaine, il faut voir ce que je fais ici. J'ai finalement eu une année. Je vais avoir une année sabbatique pour faire de la recherche. Mais je pense, vous, ce que vous voulez, c'est surtout l'aspect économique pour vos interventions.
Pas seulement, c'est un peu parce qu'on a fait là aujourd'hui. Et puis surtout, quand vous parlez de consommateurs responsables, jusqu'au bout de la filière. J'en parle même quand on fait au moment de l'ARM, quand ils font des dons. Dans le milieu privilégié, je dis pas seulement de donner votre, ça vient de certains moments. La pensée pour qui vous le faites, parce que ça va aller jusqu'au bout de ce
que je pense.
C'est vraiment une conscience de quel être humain ils seront en tant
que
homme, femme, consommateur ou tout ce qu'on veut.
Écoutez, moi je pense que peut-être, alors je pense à deux lieux, je pense au CERAS, parce que voilà, eux ils travaillent beaucoup avec les jeunes, et donc ça peut être, et je pense aussi au CCFD, parce qu'ils travaillent beaucoup sur les questions économiques, et donc ils sont
ouais, mais moi je sais pas où j'habite, c'est des personnes, c'est plus du quatrième âge.
Oui, alors non, non, c'est pas les groupes locaux, là il faut s'adresser au siège.
J'ai relation avec les groupes locaux, mais bon,
ouais, non, c'est pas les groupes locaux. Non, c'est
pas... ça va avec des petits, mais
ouais, bon. Non. Parfois, ils sont un discours beaucoup trop... un peu trop tranché, en fait. Non, je pense qu'il faut... pourtant, eux, ils sont vraiment des... Non, je pense qu'il faut, alors, je sais pas, en passant par eux, éventuellement, mais...
Ce que je souhaite, moi, c'est que ces jeunes, ils entendent un discours, après, ils en font ce qu'ils veulent. Ils sont libres.
Ouais.
Au moins une fois dans leur vie, ils entendent, parce qu'ils apprécient. Parce que l'école où je suis, ce sera déjà pas trop bien, sinon, en école, ça va se passer. Voilà, qui veut dire, au fond, j'ai entendu, est-ce que je peux pas avoir une position, est-ce que je vais en prendre.
Je pense, alors vous savez, peut-être dans ce cas-là, pour moi le mieux, beaucoup mieux même quand quelqu'un qui a un discours un peu global, c'est d'inviter un entrepreneur, un jeune entrepreneur. Il y a énormément aujourd'hui de gens qui créent des petites entreprises, mais avec une finesse sociale. Et donc ils viennent raconter son expérience. Ça, pour
oui,
jeune,
mais, je l'ai trouvé, j'ai compté un moi.
Alors, il y a,
ils aiment les témoignages, ça c'est sûr.
Ouais. Écoutez, il y a, parce qu'il y a le labo de l'ESS, le problème c'est aussi qui est souvent sans, où le... oui, le alors, qu'est-ce que vous pouvez...
sinon, on va voir ça la semaine prochaine.
Oui, notez le labo de l'ESS, c'est un lieu qui rassemble, c'est un think tank qui rassemble les acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire. Donc, voilà. Là, vous allez sur leur site, vous allez voir qu'il y a plein. Alors, il faut voir s'il y a un contact. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de contact direct. J'avais des clients qui travaillaient là, je ne sais plus. Mais à mon avis, eux, ils peuvent avoir. En tout cas, il y a ça. Et puis, l'autre, c'est l'autre lieu qui a beaucoup d'entrepreneurs, c'est les canons. Les canons, c'est les et le S. Et les canons, c'est A. Parce que dans le canal de Lourdes, c'est en fait le centre, c'est un centre qui a été créé par la ville de Paris pour l'entrepreneuriat social. Donc c'est toutes les activités d'entrepreneuriat social. Et donc là, il y a même peut-être d'aller avec les étudiants à des... Vous savez, de les faire déplacer, parfois c'est très intéressant. Ils mobilisent énormément.
Et ça, pareil, si je cherche sur Internet,
les deux, vous trouvez, il y a des sites
qui sont très... D'accord, merci bien.
On y va ? Donc, on passe au deuxième point de l'ordre du jour. Voilà, on a vu, alors, on va voir qu'il y a des choses qu'on a déjà abordées un petit peu. Et c'est ce que j'ai appelé la finalité. Une fois qu'on a, en tout cas, accepté cette définition première de l'économie comme un lieu de mise en relation, et comme un lieu avant tout qui voilà, permet à chaque humain de déployer sa capacité relationnelle. Et voilà, comment définir la finalité. Vous savez, vous vous souvenez, on l'avait vu déjà avec, la fois dernière, dans Laudato aussi, on disait, voilà, ça ne suffit pas de dire tout est lié, ce qu'il faut aussi, c'est dire le type de lien qu'on veut construire. Parce qu'on peut avoir des liens de domination, des liens d'exploitation, des liens d'abus. Donc ça ne suffit pas de dire, voilà, il faut être en lien. Et encore, il faut pouvoir qualifier, dire le type de lien. Donc c'est là où on rentre un petit peu dans, voilà, dans ce que j'ai appelé la finalité. Et alors, voilà, donc j'ai mis, Nabil va encore me... de le message central de ce deuxième point, c'est de la rentabilité financière à la rentabilité relationnelle. Mais voilà, je réagis parce que la remarque de Nabil est juste, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier la rentabilité financière et qu'il faut maintenant s'occuper uniquement de la rentabilité relationnelle, mais c'est de dire... voilà, la rentabilité en termes de finalité, la rentabilité financière est un moyen et la finalité c'est la rentabilité relationnelle. Donc il faut pouvoir analyser, évaluer l'économie à partir de ce qu'elle produit en termes de relations. Et si j'utilise ce terme de rentabilité, ça peut être un peu choquant de dire rentabilité financière, parce qu'en rentabilité on l'utilise pour l'argent, pour la finance, pour le profit. Mais rentabilité, vous voyez, c'est la question de la valeur. La rentabilité, c'est une manière de dire, voilà, la valeur ajoutée en économie, c'est ce terme de valeur ajoutée, c'est comment on crée de la valeur. Sauf qu'en économie, la valeur est avant tout valeur monétaire. Elle est exprimée avant tout en termes monétaires. Et c'est pour ça qu'on parle de rentabilité financière. Et donc, dire qu'on met en avant la rentabilité relationnelle, c'est une manière de dire que la relation est source de valeur. Et qu'une valeur économique, c'est la relation. Vous voyez ? Que ce n'est pas simplement la relation pour que tout le monde soit un petit peu content et bienveillant, voilà, et des bonnes relations amicales. Non, c'est la création des relations qui est source de valeur. Parce que si l'être humain est avant tout un être de relation, ce qui est source de vie pour lui, c'est de se sentir inscrit dans un tissu de relations où il se sent justement reconnu et en communion avec les autres. Donc la relation est vitale, la relation est vitale. Et donc, si l'économie, voilà, s'il y a comme finalité la rentabilité relationnelle, ça veut dire que la relation, elle crée des relations qui sont source de vie pour chaque personne. Donc c'est ça qu'il y a un petit peu dans ce message synthétique. Alors, encore une fois, trois points là pour voir la finalité. Alors là, je reviens à quelque chose très rapidement que j'avais évoqué dans le premier cours, mais aussi pour vous dire comment ça s'inscrit dans toute une lignée du discours social de l'Église. C'est les principes un petit peu qui vont être surtout mobilisés par la doctrine sociale de l'Église pour parler justement de cette finalité relationnelle comme finalité principale de l'économie. Alors, je reprends un petit peu très rapidement ces grands principes parce qu'ils reviennent très souvent, alors aussi dans Laudato aussi, mais également ici dans le texte sur les problèmes économiques et financiers. Alors, le premier, c'est donc la dignité de la personne humaine. Ça, bon, je ne vais pas m'attarder là parce qu'on a déjà parlé beaucoup de... l'humain comme être de relation, c'est le principe de la dignité. Vous savez, ce mot de dignité est un mot clé, il apparaît dès le début dans Rerum Novarum, quand il parle du travail. C'est le travail avant tout doit respecter la dignité de la personne humaine. L'humain, la personne humaine n'est pas uniquement de la force de travail, elle est une personne. Et donc c'est sa dignité qui doit être reconnue avant tout dans le travail. Donc la dignité de la personne humaine comme un principe majeur. Alors ensuite, j'ai oublié un dans les quatre là que je vous ai mis, la destination universelle des biens. Alors ce principe est central en économie, on l'avait déjà évoqué. Destination universelle des biens, c'est que les biens de la terre sont destinées à tous les humains. Et que ces biens, en fait, ne peuvent pas, même s'ils sont appropriés par des personnes, en fait, ces biens appartiennent à tous. Et c'est, je crois que je l'avais déjà rappelé au premier cours, pour la doctrine sociale de l'Église, ils le disent très clairement, elle reconnaît que le droit de propriété est un droit légitime, être propriétaire des biens qu'on a, c'est légitime, mais que le principe de destination universelle de biens est supérieur au droit de propriété. D'accord ? Donc, qu'on ne peut pas empêcher à quelqu'un de prendre un de mes biens si cette personne voilà, est en risque de survie, et au titre que c'est ma propriété. D'accord ? Et donc, vous voyez, ça va très loin. Ça va très loin parce que, d'une certaine manière, dire que la destination universelle des biens est supérieure au droit de propriété peut permettre de justifier, dans certains cas, le vol. Parce que voilà, c'est des personnes qui, la seule manière de survivre, c'est de prendre quelque chose qu'ils ne peuvent pas payer et qui ne les appartient pas, mais que c'est la seule manière de survivre, eh bien, pour l'Église, si cette personne risque de mourir, voilà, elle a droit à prendre parce que ces biens nous appartiennent à tous. Donc voilà jusqu'où en va la radicalité du discours de l'Église. Donc, destination universelle des biens, et si je le mets, alors ça revient souvent dans les deux textes, autant la veille aussi que dans le document d'aujourd'hui, si je le mets, c'est parce que, en fait, dans ce texte-là, cette destination universelle des biens va être toujours associée à la question du don et de la gratuité. Et en fait, le texte, ça c'est quelque chose qui est bien déjà de Caritas in Veritate, quelque chose que pour moi était la plus grande nouveauté de Caritas in Veritate, c'est de dire que le don, la gratuité, doit se penser à l'intérieur même du marché et non pas à côté. Parce que vous savez, ce qu'on dit souvent en économie, et comme des bons cathos, c'est bon voilà, on fait nos affaires, et puis si on a un peu d'argent, on va donner, si on a un peu plus que ce dont on a besoin, on donne à celui qui en a besoin. Donc il y a d'un côté le marché, et d'autre part, les dons que je fais pour ceux qui en ont besoin. Et là, Caritas in Veritate, il a dit non, le don doit se penser à l'intérieur même de la logique marchande. À l'intérieur même de la logique marchande. Et donc, vous voyez, ça pose question, parce qu'en général, le marché, c'est un lieu, justement, où on va échanger des choses qui sont équivalentes. Je donne de l'argent et je reçois la baguette, quelque chose qui est équivalent à l'argent que j'ai donné.
Et vous pouvez donner un exemple en concrétant ?
Oui, alors, je vous donne. En fait, je pense que la question du don apparaît et justement du moment qu'on intègre la relation. Et l'idée, c'est que quand on échange un bien, on revient à cette idée d'échange de biens, quand on échange un bien, on échange quelque chose d'autre qu'uniquement le bien. Et donc, l'échange n'est pas, vous savez, l'échange marchand, c'est un échange d'équivalent. Je te donne la baguette, tu me donnes les 2 euros. Donc on échange des choses équivalentes. Là, on est, il n'y a pas de don, en fait. Là, on échange un bien, deux biens qui ont la même valeur. Mais l'idée, c'est qu'en faisant cet échange, je rentre en relation avec la personne et il y a peut-être quelque chose qui va se tisser avec la personne et qui va permettre peut-être que la personne... c'est difficile en économie parce que, vous savez, il y a beaucoup de cadeaux qui sont de marketing. Je veux dire, le boulanger va dire, mais en fait, je te donne un croissant. Alors, on peut dire, il applique la gratuité. En fait, c'est juste une manière pour fidéliser le client. Donc, c'est pas ces dons-là dont parle l'encyclique. L'encyclique, il dit, et je pense que c'est ça l'histoire du don dans le marché, c'est justement de prendre conscience à quel point, quand on échange quelque chose, est-ce que je profite de cet échange pour échanger quelque chose d'immatériel
et donc pour créer une relation. Et donc, du coup, voilà, il y a cette dimension relationnelle, mais on ne rentre pas dans l'équivalence des objets qui sont échangés. Et donc, il dit, en fait, voilà, il y a par exemple, alors, les références dans le texte reste pour moi laisse ouverte un petit peu cette énigme, parce que c'est par exemple dans le numéro 9 qu'il va parler de la logique du don, et il dit par exemple la logique du don n'est pas une alternative à celle de l'échange, elle est inséparable de l'échange d'équivalent. Donc vous voyez, ça va dans ce sens là que le don va toujours avec un échange des biens, des choses, d'objets. Donc parce que ce don, justement, parle d'un type de réciprocité qui n'est pas la réciprocité d'équivalent. Je donne des choses qui ont de la même, en échange des choses qui ont la même valeur marchande. Et puis, dans le numéro 11, il va parler de la circularité entre le gain et le don. Et alors, bon, voilà. Là ça, pour moi, ça reste un peu ambigu, parce que circularité entre le gain et le don, ça peut être, bon, je fais du profit et puis je donne. Mais pour moi, le premier, c'est quand il parle de la logique de don, justement, comme une logique inséparable de l'échange d'équivalent. Pour moi, ça veut dire, justement, que quand on échange des choses matérielles, quand il y a un échange marchand, est-ce que cet échange, justement, est l'occasion pour échanger autre chose qu'uniquement le matériel ?
Moi, je l'entends de manière pas tellement c'est l'occasion de, c'est aussi de que moi je prenne conscience que le non matériel, le gratuit, est à l'origine du bien. Mmh. C'est-à-dire que le pain ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas l'amour que le boulanger met dans la baguette. Mmh. Mmh. Et c'est quand je vais acheter ma baguette, c'est pas tellement oui, c'est je dis bonjour à la caissière, blablabla. Okay. Mais c'est aussi de profondément reconnaître en moi cette conscience que voilà, le fait de fabriquer le pain, c'est aussi quelque chose qui m'est donné, qui a une portée symbolique, une portée qui dépasse complètement. Moi, je le lis plus comme ça, comme d'accord. À l'origine de la fabrication de la baguette, il y a le don. Et c'est quand je reconnais ça, ou quand j'achète un kilo de carottes ou même une automobile, qui a le don de quelque chose pour moi. J'appelle ça que finalement je me place dans cette logique.
D'accord. Non, mais je trouve que c'est très juste ce que vous dites. Comment ?
Il faut faire abstraction de l'aspect financier.
Alors, pour la relation. Plutôt que de l'aspect financier, c'est.
Non, mais il existe et il ne s'agit pas de supprimer. Mais...
Quoi de plus ? La valeur
elle est au-delà de ça, quoi. D'accord, je donne 2 euros pour ma baguette de pain ou mon kilo de carottes, mais il faut dépasser cet aspect financier et aller bien au-delà. Et justement, ne pas oublier cet aspect relationnel qui est caché actuellement par l'aspect financier. Si je vais chercher ma baguette de pain et qu'il m'en est 2 centimes, j'ai pas ma baguette de pain.
Ouais,
j'ai mon petit boulanger de quartier, etc., il va me dire on va prendre la baguette, vous payerez quand vous avez le temps. Et puis. Qui sait si la personne reviendra payer ou pas, quoi.
Voilà. Ouais. Mais voilà.
Moi, je crois que c'est un mouvement
en amont là.
C'est en amont. Toujours ce mouvement-là qui va toujours vers une logique du devoir. Si je ne fais pas de sourire à la caissière, blabla. Non, moi, je parle de ce mouvement-là. Oui,
en amont.
Quand je, voilà, quand je mange mes carottes, est-ce que j'ai. Voilà, j'ai. Comment est-ce que je les reçois finalement?
Oui, mais je pense qu'elles ne sont pas indépendantes. Parce que
ça peut être un peu plus lourd. On est souvent dans ce
sens. Parce que
ce geste, il est important.
Parce que dire bonjour à la caissière, ce n'est pas uniquement par devoir. Pour moi, c'est justement, je lui dis bonjour à la caissière ou au boulanger, parce que je reconnais qu'il est beaucoup plus. Que quelqu'un qui me rend un service. Et donc ça va dans le sens que vous dites, c'est-à-dire je reconnais, mais c'est très beau quand vous disiez le boulanger quand il a fabriqué sa baguette, il n'y a pas seulement le coût de production des ingrédients dans la baguette, il a mis de soi
son savoir-faire.
Alors c'est son savoir-faire, mais aujourd'hui le savoir-faire aussi est très monétarisé, mais c'est l'amour de métier qu'il aime faire, et voilà. Et ça, on ne le paye pas. Et donc, c'est d'accepter qu'à travers ce bien, je reçois un peu de cette. Voilà, je reçois quelque chose qui m'est donné.
Et c'est ça que je trouve qui est caché aujourd'hui par l'aspect financier. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà.
Ouais,
quand je dis abstraction du financier, c'est pas
de ne pas rester
mais c'est de regarder au-delà de l'aspect financier, ouais. Prendre une autre hauteur pour justement voir ça. Ouais. Donc, alors les gens commencent à prendre conscience de ça, mais c'est pas encore suffisant.
Alors après, il y a, et là ça fait le lien avec la question de l'environnement, parce que c'est le fait de dire que dans chaque chose que je mange, notamment dans les aliments, mais pas uniquement, parce que dans la table il y a du bois et des arbres, et c'est dans chaque chose que j'utilise et que j'achète, en fait, avant tout, il y a ce don premier de la création qui a permis qu'il y ait des arbres, qu'il y ait de la terre, qu'il y ait de l'air, qu'il y ait de l'eau, et qui a permis qu'aujourd'hui je puisse acheter ce bien-là. Donc c'est de voir cette partie qui est, qu'on la reçoit comme un don et qui ne nous appartient pas, même si je paye la table va être de ma propriété. Donc, voilà. Donc, ça c'est destination universelle des biens. Oui, vous voulez dire quelque chose?
Non. Moi, j'associe ça, ça me faisait penser à l'idée de la transmission. Je vois un chef d'entreprise, je me vois... En entreprise, je me dis, est-ce qu'on accepte de perdre du temps pour accueillir un stagiaire ou pour que lui aussi apprenne? Je me dis, dans toute entreprise, dans toute gestion d'économie, de production, il y a cette notion de... Enfin, il y a cette réalité de la formation, quoi. Ouais. Et là, ça nous rappelle, c'est comme un élastique de rappel qui nous montre un peu qu'on ne peut pas suffire de ce qu'on doit produire, mais d'aller un peu plus loin que le bout de notre nez pour arriver dans une... Certaines, et là, il y a vraiment cette notion de gratuité.
Oui. Alors, je viens après sur comment ça s'applique dans l'entreprise. Je suis complètement d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut faire attention, notamment dans l'entreprise. Parce que l'entreprise, aujourd'hui, peut dire, par exemple, je perds du temps dans la formation parce que cette personne va devenir plus efficace pour moi. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui disent... ah oui, je laisse du temps libre pour que les gens se retrouvent autour de la machine de café. C'est du temps non productif, mais c'est ce qui permet à chacun d'être content, parce que quand ils sont contents, ils vont produire
avant. C'est mauvais, ça.
C'est surtout
non, je ne dis pas que c'est mauvais, mais pour moi, ça, ce n'est pas de la gratitude.
C'est surtout que là, se règle plein de questions très importantes.
Oui, bien sûr, mais on est dans l'efficacité. On est dans l'efficacité d'un travail qu'on doit faire ensemble. Ça, pour moi, ce n'est pas de la gratitude.
La notion de gagnant-gagnant existe quelquefois.
Oui, mais la logique du don, ce n'est pas du gagnant-gagnant.
Ah oui.
La logique du don, ce n'est pas du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont justifiées du côté de l'entreprise pour dire, mais non, je laisse, je donne du temps libre à mes employés parce que finalement, ils vont travailler mieux. Ça, ce n'est pas de la gratuité. Ça, ce n'est pas de la gratuité. Ça, c'est une rentabilité intelligente, c'est une stratégie. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Parce que la gratuité, c'est, par exemple, je dirais beaucoup plus, vous voyez, là, je reviens parce que à l'économie solidaire, par exemple, les entreprises d'insertion, je ne sais pas si vous connaissez les entreprises d'insertion, sont des entreprises qui vont employer pas la personne qui est la plus compétente pour faire un travail, mais celle qui a le plus besoin de travailler.
Pas de la personne.
Voilà. Et donc, on va dire, cette personne ne me donne aucune garantie, mais elle a envie de travailler et je fais un pari sur cette personne. Ça, c'est de la gratuité. Je l'embauche, même si je n'ai aucune garantie qu'il va pouvoir faire ce que je lui demande. Et j'investis sur cette personne et je fais un pari sur cette potentialité. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on embauche dans les entreprises. Dans la plupart des entreprises, quand on embauche, il faut montrer que je suis le plus capable pour le poste. Après, quand je suis à l'intérieur, bon, on va me donner peut-être des possibilités pour que je ne sois pas trop malheureux. Mais voilà, mais je pense que la gratuité, il faut faire attention parce qu'on peut aussi instrumentaliser ces temps libres et quelque chose qui peut apparaître. C'est pour ça que je dis gagnant-gagnant, pour moi, ce n'est pas de la gratuité. La gratuité, c'est quand je ne calcule pas. C'est quand je ne fais pas. Alors, ce n'est pas que je fais, je donne sans recevoir. Ce n'est pas ça non plus la gratuité. Parce que ça, c'est l'autre problème. Je pense que c'est quand on donne sans recevoir, pour moi, ça crée de la verticalité. Voilà. Je donne et l'autre reçoit. Pour moi, ça, c'est pas non plus de la gratuité. Dans la gratuité, il y a toujours de la réciprocité. Mais je donne sans condition de recevoir. je donne sans obligation du rendu. D'accord ? Et donc, je donne justement pour créer une relation avec l'autre. Donc, je ne sais pas ce qu'il va me donner en retour, mais je crois qu'en lui donnant, voilà, je crée une relation avec lui. Donc, je ne suis pas dans le calcul gagnant-gagnant, mais je ne suis pas non plus dans l'indifférence. Ah oui, moi, je donne parce que je suis généreux. Ça, pour moi, ce n'est pas de la gratuité telle que parle la pensée sociale.
On ne sait pas ce qu'on va recevoir. On peut donner en sachant qu'on va recevoir quelque chose, mais on ne sait pas.
Oui, voilà. Et en croyant que, voilà, que donner, c'est une manière de créer une relation avec l'autre et donc de croire que l'autre va me donner quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Et je ne le fais pas pour ça. Mais je le fais pour créer une relation avec lui. Donc c'est pour ça que je dis que la gratuité, c'est de la réciprocité. Oui.
Vous parlez du don, et j'entends beaucoup parler de donner, et moins d'être conscient d'avoir reçu des dons. Vous dites dans une table, dans une chose, quelque chose qui nous est donné, qu'on peut donner, pas seulement par la personne qui nous donne, mais un peu plus que ça,
ouais.
C'est beaucoup plus intéressant. Mais de prendre conscience qu'on reçoit des dons,
ouais.
Plutôt que de distribuer des dons
toi-même. Ouais.
C'est totalement contradictoire avec la logique de l'allocation des dons.
Oui, exactement. Mais c'est un peu dans le sens que vous disiez, c'est-à-dire chaque chose que je consomme, il y a une partie dedans. Je reçois quelque chose de la nature, de l'amour de celui qui l'a fait. Et donc, mais c'est vrai que nous, on se met, je pense, on dit que c'est plus difficile de donner que de recevoir, mais je pense que c'est beaucoup plus difficile de recevoir que de donner.
Le don est là. Ouais, et le don de la personne. Il produit mal dans les ateliers d'insertion, etc. Le don, c'est de voir toute la richesse éventuelle qui se trouve un peu ailleurs, mais dans cette personne, dans ce cas-là.
Ouais.
Mais il ne faut pas se tromper. En économie, il ne faut pas se tromper. Il faut pas des bonnes intentions, il ne faut pas de la bonne économie.
Les économies d'insertion aujourd'hui sont rentables.
Non, je suis d'accord, mais c'est mieux que des bonnes intentions.
Vous dites, bonne intention dans le sens négatif de la bonne intention. Oui, tout à fait. C'est pas uniquement de la bonne intention. Mais je veux dire, c'est de dire que, voilà, qu'on fait une activité économique sans seulement calculer ce